Moi, par contre, j'ai une question à vous poser. J'aimerais savoir quel a été l'écho de tous ces événements qui se sont passés dans le monde arabe. Comment ça a été perçu par vous ici? Qu'est-ce que vous en avez reçu? Et quelle est la grille d'analyse que vous tirez du film qu'on vient de voir? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous retenez de ce film? Qu'est-ce que vous avez vu dans ce film? Qu'est-ce qui se lance? Il sourit tout gentiment, mais... Oui.
Sur le film, il me semble que j'ai pas appris beaucoup plus que ce que j'en savais en ayant suivi l'actualité. Ce film, me semble-t-il, montre les débats qui... C'est la première période dont vous avez parlé. Les débats qui agitaient quand même les gens qui étaient là, parce qu'ils se disaient, bon, on fait ça, on est sûr qu'on veut le départ de la fin du régime, mais après, les frères musulmans, les laïcs, puisqu'il y en a... Mmh. Voilà. Moi, il me semble que le film montre ça. Mmh. Mmh.
Il y a une chose qui m'a... ça fait beaucoup de choses qu'on a vues. C'est difficile de tout intégrer comme ça. Mais il y a une chose qui m'a frappé, c'est le regard de certains jeunes dans ces manifestants. C'est des jeunes, en fait, qui ressemblent aux jeunes maghrébins qu'on côtoie tous les jours. Et c'est ce qu'ils étaient en train de vivre, ce qu'ils avaient dans le regard, c'est, ça les distinguait vraiment de ce que les jeunes qu'on côtoie ici, les jeunes maghrébins, ont dans le regard.
C'est-à-dire ?
Je sais pas, on a l'impression que... qu'ici, par exemple, ils sont plutôt relégués dans un état de désespérance, mais plutôt de résignation. Mm-hmm. Mais bon, qui est... Je sais pas, quelle est la responsabilité, mais... Et là-bas, ça se... C'était complètement libéré, quoi.
Oui, tout à fait. Je vois ce que vous voulez dire.
C'est une impression que c'est une sensation que j'ai eue, quoi.
D'un coup, on voyait tous les yeux briller avec une énorme espérance, parce qu'il y avait cette expérience collective de la place Tahrir, c'est-à-dire que d'un coup, pourquoi j'ai titré avec les résistants de la République libre d'Égypte, c'est parce que soudain, la place Tahrir, c'était un territoire libéré, mais c'était la réalité. La place Tahrir était un territoire libéré. Et c'est pour ça qu'ils défendaient pied à pied, en termes de territoire, vraiment, tout le pourtour de la place Tahrir. Soudain, ils s'étaient réveillés, les Égyptiens, alors que j'avais connu des Égyptiens avec le regard éteint, comme les jeunes maghrébins, exactement. Soudain, d'un coup, il y avait eu une irruption dans les regards. Et je vous assure que quand vous avez 1 million de personnes, mais moi, j'étais sur les tribunes en train de prendre des photos et j'étais au milieu de tout ça, qui sont là en train de communier en même temps, je vous assure que c'est euphorisant, mais vraiment euphorisant, quoi. Il n'y a pas besoin de fumer. C'est...
Oui, je trouve que ça circulait bien.
Oui.
Parce qu'il n'est pas bousculé vraiment avec sa caméra.
Mais tout à fait, oui.
Ça circule, quoi.
Tout le monde est heureux.
On ne bouscule pas.
Tout le monde est heureux. C'est apaisé et heureux. Ouais. C'est ce que j'ai senti. Alors que dans les rues du Caire, en dehors de ce périmètre, les rapports humains sont très violents. Je vous assure qu'il y a une violence en Égypte, sauf dans les zones touristiques, n'est-ce pas? Mais les zones touristiques sont interdites aux Égyptiens qui n'y travaillent pas. Il y a vraiment une violence dans la rue, mais ça se sent complètement, quoi. C'est une société devenue très individualiste, quoi, où il n'y avait plus de lien. Et d'un coup, il y a du lien qui se reconstitue. Place Tahrir, c'est une expérience exceptionnelle en ce sens, vraiment. Et en dehors de Tahrir, il n'y a plus de lien, quoi. C'est schizo, complètement. Où c'est chacun pour soi et c'est chacun pour la survie. Le Caire est une ville très, très dure. C'est vaut mieux être un Égyptien à la campagne qu'un Kairote. Hein. Ça, c'est clair et net. J'ai vu des scènes au Caire, par exemple, que je n'ai pas vues il y a dans les années 90. L'Égyptien, mentalement, s'est transformé. Je m'explique. Il y a une énorme oppression sous le système Sadat qui s'est amplifiée avec l'ultralibéralisme de Moubarak, donc une énorme injustice vécue à fleur de peau. Mais ce système, chaque Égyptien le reproduit, c'est comme un système totalitaire. Chacun est le maillon du système, finalement. C'est-à-dire que vous subissez une injustice et vous la reproduisez sur plus faible que vous. Et c'est pour ça que les systèmes dans le monde arabe tiennent. Mais ils ne tiennent qu'à ça, en vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens s'extraient du système, et l'expérience de Tahrir, ça a été ça, c'est que d'un coup, des gens se sont extraits du fonctionnement habituel de la société, donc du système. Ils se sont mis hors système. Et ils ont vécu une expérience parallèle. Moi, ça m'a fait penser... J'ai terminé sur les montagnes du Chiapas, quoi. Je me suis dit, mais s'ils réalisent ce qu'ils sont en train de faire, l'Égypte est assez vaste pour qu'il constitue un Chiapas. Où sont les classes moyennes? Où sont ces jeunes éclairés de Twitter et de Facebook, justement, pour constituer des expériences alternatives? Puisque je pense que dans ces pays-là, la seule chose qui peut bousculer vraiment les régimes, ce sont des expériences concrètes alternatives, et rien d'autre.
Oui, alors, par rapport au film...
Qui parle, parce que j'aime voir qui parle. Oui.
Oui, par rapport au film, et moi j'ai remarqué deux choses qui me frappaient. Il y a cette joie de la rue, hein, chez certains, et en même temps quelque chose que j'ai trouvé assez effrayant, c'est une certaine manipulation d'autres. Hein. On les voit vraiment, ce jeune qui dit « Ah, mais pourquoi tu me fous là, comme on dirait un Palestinien ?» Enfin, on voit vraiment la manipulation de ce jeune-là organisé, très organisé, même quand il fait semblant d'être blessé à la tête. Et il y a ces deux filles, ce combat entre les deux filles, une qui dit « Oui, mais quand même, il faudrait une véritable constitution », et l'autre qui dit qu'on sent bien que l'autre vient de ce système organisé des jeunes, il dit « Mais non, non, c'est pas juste pour faire tomber Moubarak, et puis voilà, on verra après quelques petits amendements ». Enfin, je crois que déjà, je ne connaissais pas ce que tu as écrit après, mais déjà, moi, ça m'effrayait totalement, ça se voit dans le film, entre une joie innocente de certains et les autres qui tire les ficelles derrière, mais c'était effrayant. Et j'ai une question par rapport à ça. Tu as comparé les jeunes musulmans, enfin les frères musulmans. Moi, j'avais entendu que c'était un mouvement social, populiste et tout ça, mais aussi, ce que j'entends de nouveau, c'est qu'il est comparé aux évangélistes nord-américains, donc intéressés par la manipulation, mais par le fric aussi.
Ah, mais complètement.
Parce que je me demandais pourquoi alors les frères musulmans, s'ils font du social, pourquoi ils n'aident pas aussi l'opposition qui est maintenant ces jeunes que tu dis qui sont arrêtés. Et alors, est-ce qu'ils se sont rangés du côté du fric et avec l'armée? Et donc, ces gens-là, ces frères musulmans, sont encore moins fréquentables que ce qu'on pouvait imaginer. Enfin, voilà.
Parce que c'est, encore une fois, le parti des frères musulmans, donc, qui n'était pas constitué en parti, c'était la confrérie des frères musulmans, qui a été, sous les différents régimes, tolérée ou réprimée. À chaque fois, ça a été répression, tolérance. On leur a ouvert une brèche sous Moubarak, effectivement, où ils ont pu faire leurs affaires, grimper dans la société. C'est des classes moyennes bourgeoises. Hein. J'ai un article qui est en ligne maintenant sur Tlaxcala dans plusieurs langues. Ça s'appelle « Les frères musulmans à la conquête du pouvoir ». J'ai fait une plongée tout de suite après Tahrir, j'ai fait une plongée chez les frères musulmans. Donc j'ai suivi Beltagi, j'ai suivi le nouveau parti des frères, je suis allée assister à leur meeting jusqu'à Ardas, ce qui était assez hallucinant parce que c'est quand même un site touristique, Ardas, donc c'était hallucinant de voir un meeting des frères musulmans dans un site touristique. Et effectivement, ce qui m'a paru de premier abord au niveau de la ressemblance, c'était les WASP américains. directement avec tout ce discours évangéliste, etc. Et puis le pognon à côté, quoi. On fait nos affaires et le pognon qui leur sert à quoi ? Eh ben, à calmer la populace, voyons. À quoi ça sert l'argent dans ces cas-là quand on a effectivement des ambitions de diriger un pays et ils ont l'ambition de diriger l'Égypte ? Ça sert effectivement à calmer la population qui, encore une fois, la majorité des Égyptiens vit en dessous du seuil de pauvreté, il faut le dire. Il y a un énorme problème d'analphabétisme en Égypte, d'illettrisme. L'Égypte est une société stratifiée. Donc, vous avez les catégories supérieures qui vivent à l'heure de New York. Hein, donc, ils sont équipés. Il y a absolument tout chez eux. Ultra moderne, il manque de rien. Il y a les super écoles pour les enfants. Il y a l'école américaine. Tout est là. Il suffit d'avoir l'argent. Et puis, vous avez le système soviétique pour les autres. Quoi. Moi, j'ai halluciné. C'est-à-dire qu'il y avait encore tout l'ancien appareil mis en place par Nasser. Hein. L'Égypte, à l'époque de Nasser, était un pays soviétisé. Donc tout est encore là au niveau de la gestion de la population, hein, de la populace. Que ce soit quand vous en rendez compte quand vous avez affaire à l'administration, mais c'est des complications, c'est à devenir fou au bout de deux jours, quoi. Donc là, on s'en rend compte très vite. La gestion de la distribution des denrées de première nécessité, etc., c'est pareil. Ça m'a fait penser aux époques de Boumédienne, c'est pareil. Hein. Toute cette expérience-là où, effectivement, la gestion socialiste de la population, et puis, donc, cette catégorie-là qui vit vraiment à l'heure de, oui, de Twitter et d'Internet, et de, voilà. Donc, je pense qu'une des grosses difficultés de l'Égypte, elle réside là, justement, par rapport à une énorme population, cet écueil complet entre des castes, carrément, des strates, le manque de perméabilité, c'est-à-dire qu'on appartient aux uns ou aux autres. Et je m'en suis rendu compte, effectivement, en essayant de mobiliser autour du cas des détenus politiques, justement des gens qui ont été jetés en prison et de Wael Ali, que beaucoup de monde connaissait sous la place, des gens des mouvements, justement, du 6 avril, Irtilef, etc. C'est effectivement des gens qui se mobilisent plus là-dessus. Ils sont passés à autre chose. Hein. Ce qui est quand même dommageable, ça veut dire qu'ils sont en train de rater le coche aussi. Puisque forcément, à partir du moment où ils se coupent des luttes sociales et des vraies luttes, eux-mêmes vont être isolés dans leur tour d'ivoire dans les assemblées nationales. Donc, vont être coupés de tout aussi. C'est une façon aussi de les neutraliser, ça c'est clair.
Qui sont un peu à l'origine de ce mouvement et aujourd'hui qui pourraient justement prendre parti. Est-ce qu'ils ont le pouvoir aujourd'hui de pouvoir encore s'exprimer ou est-ce qu'ils sont mis un peu à l'écart justement par les frères musulmans?
Alors, d'abord, je rectifie une chose. Ceux qui sont à l'origine du mouvement populaire qui s'est déclenché en Égypte, du soulèvement populaire, c'est deux mouvements concomitants. C'est tout le collectif qui s'est mobilisé à Alexandrie autour du problème de l'assassinat de Khaled Saïd et des jeunes, puisqu'il y a eu des bavures depuis 2010 en Égypte, donc du rapport à la police. Et là, ça me fait penser au rapport des jeunes des quartiers populaires à la police et des luttes que nous avons menées dans les années 80 dans les quartiers. Je pense notamment à Nanterre, à Gennevilliers, etc. Donc toutes les luttes qu'on a menées contre l'assassinat de jeunes par les policiers à l'époque, hein, j'ai 51 ans, je vous le dis parce que sinon ça va vous étonner. Donc j'ai un vécu et notamment cette lutte-là antiraciste entre guillemets, mais le problème à l'époque c'était l'assassinat de jeunes par la police. Donc même phénomène sur Alexandrie où il y a une forte mobilisation, donc la famille de Khaled Saïd plus d'autres familles qui se sont réunies et qui elles ont appelé effectivement à une mobilisation le 25 janvier et les travailleurs de Mahalla Kubra et de Suez. Ça, je tiens à le dire, c'est pas Twitter, c'est pas les classes moyennes, c'est pas Facebook qui a mobilisé, ça a été un média de communication. Comme nous, à l'époque, on prenait le téléphone pour dire « il y a manif à tel endroit », mais sans plus. Qu'ils se soient greffés sur ces luttes, parce qu'ils ont été formés, effectivement, certains d'entre eux, des cadres, et tu l'as très bien repéré dans le film, ont été formés dans des ateliers de Freedom House. Donc effectivement, c'était le moment d'encadrer, effectivement, oui, ils sont venus, ça c'est clair et net. Mais ces jeunes-là, des classes moyennes, effectivement, quand l'armée a dit « vous vous retirez », elles se sont retirées. Ça a été le signal. Le premier signal, ça a été le 9 mars. Deuxième signal, le référendum, tout est fini. Plus aucune raison de rester manifester. Et après le référendum, effectivement, les manifestations, c'était très tendu sur la place Tahrir, quoi. Moi, je me demandais quand est-ce qu'ils allaient nous tomber dessus. C'était clair et net que je les voyais arriver, quoi. Ils allaient nous tomber dessus. Ensuite, que cette catégorie-là, donc que ces jeunes organisés dans leur parti maintenant, puisque les jeunes de la coalition se sont dispersés, ont chacun créé leur parti pour aller aux élections, qui se retrouvent, comme dans les autres pays, effectivement, et je pense notamment à l'Algérie où l'expérience s'est produite, isolés des catégories sociales et des questions sociales, et ben c'est leur histoire, ils seront isolés. Et qu'ils soient noyés par les frères musulmans, ben c'est leur histoire. Ils seront noyés par les frères musulmans, ça c'est clair et net. Et ils serviront d'alibi à une pseudo-démocratisation du pays, ça c'est clair et net.
Oui, moi je voudrais revenir sur le film pour dire que j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est un film qui a été bien fait, enfin c'est mon impression. On a envie de croire qu'il est complètement objectif, il n'y a pas de parti pris. On a bien vu ce qui se passait de l'intérieur, ce qui n'est pas facile à faire, et qui a été bien filmé. Et puis, mais alors ce qui m'a frappé, moi, c'est qu'il y a eu beaucoup de références à Dieu. Ça, c'est quelque chose qui, de notre point de vue, enfin, je veux dire, nous, Français ou Européens, n'est sûrement pas habituel dans ce genre de circonstances. Alors votre analyse est inquiétante, moi je la découvre, vous êtes en train de dire que finalement tout ça, ça va être un feu de paille.
C'est pas tout à fait ce que je dis.
Bon, mais je voudrais, avant que vous m'expliquiez tout ça, je voudrais quand même dire que le printemps arabe est quelque chose qui nous marque beaucoup. Vous avez l'air de dire que l'Égypte, finalement, ça risque de ne pas donner ce qu'on avait espéré. Mais que pensez-vous de la Tunisie ? La Tunisie, moi, c'est un pays que je connais plutôt. J'y vais régulièrement. J'enseigne à l'école d'ingénieurs de Tunis. J'y vais de temps en temps. J'ai beaucoup parlé avec les Tunisiens. Et j'ai envie de croire que ça va marcher pour eux. Alors, est-ce qu'il y a une différence que vous ressentez là ?
Il y a une grande différence. Alors, pour revenir à cette question de religiosité, pas de Dieu, de religiosité. On est au Moyen-Orient et les sociétés orientales sont très religieuses, imprégnées de religiosité. Donc, que ce soit les musulmans ou que ce soit les chrétiens, il y a toujours une référence à Dieu, notamment dans des situations pareilles où les gens étaient vraiment prêts à mourir sur la place. Donc à un moment donné, il y a eu une traduction qui a été très mal faite. Dieu nous vengera. En vrai, ce qui était dit, c'est... ça veut dire accroche-toi à Dieu et agis, ce qui n'est pas tout à fait le même sens. Donc, et tout est comme ça, si vous voulez. Donc c'est des sociétés culturellement imprégnées de valeurs religieuses. Ça ne veut pas dire que à chaque fois qu'on entend Allah Akbar, on a affaire à un intégriste, quoi. Non, c'est pas comme ça. Et d'ailleurs, vous voyez, moi, ce qui m'a servi de garde du corps dans les moments les plus chauds de la place Tahrir, ça a été une femme en niqab, quoi. C'est Fatima qui me dit, viens à la place, c'est trop chaud, allez hop, viens, je t'embarque. Ça a été ça, quoi. Donc en même temps, c'est vrai que les apparences sont très trompeuses. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de barbus, par exemple. Je suis allée, les seuls à avoir manifesté, osé manifester devant le ministère de la Défense nationale où siège donc le Conseil suprême des forces armées pour la libération des détenus politiques, c'est les salafistes. J'ai des photos. Je suis allée manifester avec eux, ils m'ont fait un super accueil. Mais c'est les seuls à être allés manifester pour la libération des détenus politiques. Donc tout est brouillé, nos repères sont complètement brouillés quand on arrive dans une société pareille. Si on y arrive avec nos schémas là, bien idéologiques d'ici, effectivement on va avoir peur, même très peur. Mais si on y regarde d'un petit peu plus près et qu'on commence à comparer les tendances, les mouvements, etc., et les postures politiques, on se rend compte que c'est pas très loin des représentations qu'on a en France, qu'on a des partis conservateurs, qu'on a des religieux individualistes. Moi, il y a un truc qui m'a choqué, par exemple, c'est que des salafistes constituent un parti politique. Pour moi, c'est nouveau. Pourquoi ? Parce que les salafistes, théoriquement, c'est une démarche individuelle. Donc, ça m'étonne. En général, ils fonctionnent en une petite collectivité dans les quartiers et ils vivent à leur rythme, ils se donnent leurs règles, ils vivent entre eux, un petit peu comme des, comme des Mormons ou des Quakers, quoi, des Quakers. Et là, d'un coup, ils créent un parti politique. Donc là, je rigole. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, là. J'ai raté quelque chose. Donc c'est vrai que j'ai un regard. J'ai la chance d'avoir cette biculture qui me permet de faire des va-et-vient dont, entre nos schémas français et cette réalité du monde musulman que je connais bien et ses valeurs musulmanes. Et effectivement, moi, les frères musulmans, quand ils me voient arriver, ils rient jaune parce qu'ils ne peuvent pas me raconter des bobards, quoi. C'est impossible. Les références, je les ai. Donc ça donne, dans le papier que j'ai indiqué, les frères musulmans à conquête du pouvoir, effectivement, un moment, un dialogue avec l'équivalent du représentant des frères musulmans pour le gouvernorat de Giza, c'est pas loin, c'est pas rien, Adel Afifi. Donc je suis chez lui, je me rends compte que tout ce que je vois chez lui, c'est très occidentalisé. Ce qui leur reste, en fait, c'est que sa sœur, elle a une tenue très sobre, façon victorien des Suèves, avec un foulard sur la tête, très bien mis, quoi. Mais tout le reste est complètement occidental à l'intérieur. Hein, c'est ça que je vois. Et donc, je le ramène aux références donc pour le titiller sur les affaires de voile. Donc, il va me chercher la sourate du Coran et je le titille dessus. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il rit jaune parce qu'il dit « Oh là, celle-là, elle me cherche des poules, là, ça ne va pas. » Et en même temps, eux, c'est quelque part... Ils sont dans une posture, effectivement, d'instrumentalisation du religieux. Donc, c'est de l'idéologie. Tout comme d'autres se sont servis d'autres textes, que ce soit religieux ou du marxisme, pour effectivement idéologiser et avoir un maximum de lectorat, etc., etc. Sauf qu'avec la religion, effectivement, donc pour répondre à ça, c'est dangereux. Parce que la religion touche à l'irrationnel. Et qu'à partir du moment où on se fait le monopole du discours religieux, effectivement, ça veut dire qu'on a un discours excluant ou exclusif. Bon. Et là où effectivement une majorité de musulmans dans le monde musulman les combat, c'est là-dessus. C'est cette captation du discours religieux qui fait que soudain, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous devenez un païen. Donc ça a été mes multiples débats avec des députés suspendus du FIS qui se sont réfugiés en Suisse. Et ces débats ont fini effectivement par avoir des résultats très positifs, puisque c'est avec un certain nombre de ces députés et des avocats qu'on a fondé El Karama for Human Rights, qui est une organisation internationale, spécialisée de la défense des droits de l'homme dans le monde arabo-musulman. Mais c'est un boulot, c'est un vrai travail de longue haleine et de discussion, si vous voulez, avec eux, sur cette captation du religieux. Et pour la Tunisie, alors la Tunisie, il se trouve que j'ai rencontré Ranouchi à l'époque où il était en clandestinité de passage en France, donc il y a très longtemps. C'est vrai que Ranouchi, c'est un idéologue, hein, c'est un mec intelligent. Il a une expérience politique. On peut être d'accord ou pas d'accord avec le parti de Nahda, mais c'est pas des obscurantistes étroits. La plupart des cadres de Nahda que j'ai connus étaient d'un milieu intellectuel universitaire, par exemple. Ils ont une conscience de la réalité tunisienne. Ça, c'est clair et net. Ils ne sont pas comme les frères musulmans d'Égypte qui manient le double discours. Les Nahdaouis ne sont pas des frères musulmans. Donc, pour ceux qui n'ont pas ces références-là, j'explique. Chez les islamistes, il y a évidemment plusieurs courants. Les frères musulmans sont des réformistes. en fait. Donc, eux ont tendance à négocier avec les pouvoirs en place. C'est ce qu'on a vu en Égypte. C'est ce qu'on voit au Maroc sur une tendance des frères musulmans au Maroc. C'est ce qu'on a vu en Algérie. C'est-à-dire que pendant que l'armée algérienne réprimait le mouvement islamiste FIS, les frères musulmans algériens étaient au pouvoir, du moins dans le gouvernement. Et négocier et dealer des places dans les ministères, etc. etc. Donc on a des postures totalement différentes. Le FIS, par exemple, algérien, pour moi, c'était un mouvement révolutionnaire qui renouait avec le mouvement de l'indépendance. J'ai fait un papier là-dessus dans un bouquin qui s'appelle « Le drame algérien » qui était sorti aux éditions La Découverte. En quoi, effectivement, il y avait une continuité entre le FLN de la guerre d'Algérie, le discours du FLN de la guerre d'Algérie et le discours du FIS des années 80-90. Il y avait une forte proximité, sauf que le discours du FIS se faisait au nom du langage religieux, alors que le FLN utilisait le levier de la religion pour mener la guerre d'indépendance, mais ils étaient foncièrement marxistes. La différence était là. Mais on retrouvait dans des tendances du FLN, notamment celles qui étaient venues des mouvements religieux, Messali Hadj, etc., qui avaient rejoint le fond, tout ce discours du Front islamique du salut. Et ça, c'était intéressant d'étudier tout ça. Donc, quelque part, le FIS, effectivement, avait sa légitimité en Algérie. Il renouait complètement avec l'histoire politique du pays. Et j'étais de ceux qui disaient il faut laisser le processus électoral aller au bout, à l'expérience de la gestion, donc les islamistes vont être obligés d'arrondir les angles. Pourquoi ? Parce que les Algériens sont des Algériens, tout simplement. Et que les Algériens sont très rebelles. Donc il y a des choses qu'ils tolèrent et des choses qu'ils n'auraient jamais tolérées. Hein. En Égypte, là, on a affaire aux frères musulmans. Donc ce sont vraiment des réformistes qui sont en concurrence directement avec, dans la même catégorie de classe, avec, entre guillemets, les progressistes, hein, les laïcs. Hein. J'aime pas faire le clivage laïque-religieux. Hein. Pour moi, ça veut pas dire grand-chose, parce que vous allez trouver des laïcs en Égypte qui sont fortement religieux en même temps. Donc, c'est bon. Donc, ils sont en concurrence, en fait. Hein. Sauf que les frères musulmans ont le discours culturel qui colle à la société. Ce qui n'est pas le cas de la gauche marxiste, par exemple. L'écueil dans lequel est tombée la gauche marxiste, même si on explique ça par la forte répression dont ils ont fait l'objet à des moments donnés de l'histoire égyptienne, c'est que leur discours, finalement, il est perçu comme une importation, comme une grève de l'Occident par les sociétés. Et ça a été le même problème avec la gauche en Algérie, avec le Pax, ou en Tunisie, les gens qui ont été formés dans les universités françaises, là-bas, ils ont été très fortement perçus en dehors des milieux de l'intelligentsia des villes, hein, des grandes villes, hein, donc de Tunis, d'Alger ou du Caire, hein, comme des pièces rapportées de l'Occident. Et je pense que d'où leur difficulté, effectivement, à avoir une prise sur la réalité sociale. Alors que un discours culturel adapté, effectivement, avec une posture politique qui colle aux réalités sociales du pays, je pense que, sincèrement, ça pourrait aboutir dans nos pays. Vraiment.
Juste, je propose que tu puisses répondre sur la question sur la Tunisie.
Oui.
Et que peut-être on fasse une pause et qu'on...
Je viens de répondre sur la Tunisie. Oui. Voilà.
Mais qu'elle puisse répondre au moins sur la Tunisie.
Je viendrai. Ouais. Donc la Tunisie, donc pour conclure, la Tunisie, oui, l'expérience, je pense que si on laisse le cours des choses se faire, ça peut être très positif pour la Tunisie. Très positif. Pourquoi ? Parce que les Tunisiens ont su imposer le retour à la case départ, qui est une nouvelle constitution. Symboliquement, c'est très fort. Et c'est ce qu'en Algérie, les mouvements populaires demandent. Le retour à la case départ avec une assemblée constituante. Et c'est ce que les gens de Tahrir, ceux que j'ai vus, demandaient. C'est-à-dire que ceux qui sont restés sur Tahrir voulaient une nouvelle constitution. Mais complètement. Et c'est ce qu'ils demandent encore aujourd'hui. Une nouvelle constitution. Et le débat revient là, sur la nouvelle constitution. Sauf qu'effectivement, on leur a signifié le 8 avril et la nuit du 9, vraiment une ligne rouge à ne pas franchir, qui est ne pas porter d'invectives sur le Conseil suprême des forces armées. Sinon, effectivement, il risque d'avoir le triste sort de Wael Aboulel.
Comme il est déjà tard, on propose plutôt que les questions s'enchaînent s'il y a d'autres questions. Et puis, la pause arrivera au moment où ce sera épuisé. Et voilà.
Tout le monde est épuisé.
Allô. Ouais, juste une remarque. Je trouvais choquant la référence au marxisme et le fait que le discours soit pas culturellement adapté. La référence au marxisme sur le fait que ça a échoué parce que le discours n'était pas culturellement adapté et que, en gros, en leur robant d'un peu de religiosité et d'un peu de culture musulmane, ça passait mieux auprès des foules, sachant que le marxisme, ça a quand même traversé cette société-là.
Le problème, c'est que le...
Enfin, je finis.
Oui.
C'est que le marxisme, le syndicalisme et tout ce qu'il a porté, ça a traversé cette société-là de fond en comble. Ça a porté des centaines de milliers de gens qui ne voyaient pas ça comme une importation de l'Occident et qui... On portait ces valeurs-là de partage, enfin, tout ce que, voilà, quoi.
Oui.
Pas de lutte des classes et compagnie, quoi. On ne peut pas dire ça.
Alors,
ça vient des élites. Et alors que vous dites vous-même que les frères musulmans, c'est un pur produit, quelque part, de la stratégie managériale américaine pour la gestion des capitaux, donc je ne comprends pas, quoi.
Alors, pour répondre là-dessus par rapport au marxisme, l'Algérie comme l'Égypte étaient des pays socialistes. C'est-à-dire que le discours marxiste, ils l'ont connu d'Oud, mais de l'État. C'était le discours dominant. Si vous vous souvenez des années Boumédiennes, par exemple, le PAC avait fait alliance à un moment donné, à l'époque de la réforme agraire, avec Boumédienne. Ils envoyaient tous les étudiants dans les campagnes. C'est le discours dominant que le peuple entendait tout le temps. Donc d'où cette distance, cette mise à distance de ce discours-là. Je ne dis pas que ça n'a pas produit des effets. Je dis qu'il y a une mise à distance par rapport à ce que reçoivent les gens du discours qu'on leur a ressassé et sous Nasser et sous Boumédienne. Donc une forte défiance.
Ouais, mais du coup, ce n'est pas lié à un biais culturaliste, c'est plutôt lié à des expériences.
C'est des expériences, ce n'est pas culturel uniquement. C'est des expériences historiques d'un produit qui leur est venu de l'Occident, c'est comme ça qu'ils l'ont reçu. C'est comme ça qu'ils l'ont reçu. Des... Oui. Oui. C'est pas lui qui est produit occidental, c'est ce qu'il défend à l'époque. Il le fait au nom de quoi? Du socialisme.
Ouais.
Bah alors.
Mais ça, c'était défendu par le peuple, y compris au Maghreb, y
compris
au Moyen-Orient.
Ah oui, par le peuple. Tu crois que c'était vraiment défendu par le peuple ou par les élites? Ou par ceux qui étaient les élites, justement, qui entouraient le pouvoir de Boumédienne ou de Nasser? Je les ai connus, moi, les vieux marxistes. Quand tu vois dans le film... Et là, vraiment, Georges Issac, à un moment donné, Georges Issac, il est dans le film, il apparaît, il est à côté de qui? Conseil suprême du Forces armées. D'accord? Il y a un positionnement. Je suis allée le voir, Georges Issac, sur les dossiers des prisonniers politiques. Il m'a renvoyé, il m'a baladé. Pourquoi?
Oui, mais
c'est un marxiste, Georges Issac, de longue date. C'est un vieux militant, très respectable. Sauf qu'il a un positionnement, aujourd'hui, il a été nommé au Conseil supérieur des droits de l'homme, hein, et que maintenant, ils ne bougent plus. Voilà, le problème, il est là. Tous ces gens-là, ils sont coupés de leur société. Ils n'ont pas de rayonnement dans leur société. Ils n'ont pas de... J'aime pas ce mot « base », mais ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de lien, justement. Oui. C'est aujourd'hui dont je parle.
Mais
à l'époque, ils rayonnaient dans quoi? Il y a 30 ans... J'étais dans les cercles de discussion intello du Caire ou d'Alger ou d'ailleurs. Mais ces gens-là, ils discutaient entre eux, ils étaient entre eux dans leur cercle.
Je parle pas de
ces gens-là. Ouais. Tu parles de quoi?
Le peuple.
Oui, le peuple, mais le peuple lequel? Celui que je projette ou le réel?
Bah attends, il y a des histoires.
Hum? Non.
Il existait aussi au Maghreb, aussi au Moyen-Orient, aussi, ouais, en Afrique, aussi en Amérique du Sud.
Hum.
C'est pas un produit occidental. Voilà.
Le mouvement ouvrier, où ça?
Jamais...
Oui, mais au Maghreb d'une façon générale. Tu sais que le mouvement ouvrier au Maghreb, il a été très fort pendant les... Je te prends l'Algérie pendant la période de colonisation et pendant la période de décolonisation, mais après, il a été mis au pas. Il s'est réveillé quand ? Récemment. En Égypte, c'est pareil. Il n'y avait pas de mouvement ouvrier au sens où tu l'entends, parce qu'il y avait que des syndicats. Il y avait que le syndicat national. Il n'y avait pas de mouvement ouvrier au sens où tu l'entends. La réalité, c'est ça. Ceux qui ont projeté dessus, ben, ça leur appartient. C'est leur parole d'historien.
Alors moi, ça m'amène à une réflexion, tout ça. Et donc, je fais un petit peu un parallèle, en fait, entre ce qu'on a vu et puis nous, ce qu'on vit, en fait. Parce qu'on donc on est actuellement une démocratie. Et ce qu'on souhaitait pour eux, c'est qu'ils deviennent un petit peu comme nous, un pays démocrate.
C'est justement cette question...
Mieux que nous.
Et on fait partie des pays qui posent un problème d'un point de vue des finances, parce qu'apparemment, on joue avec l'argent, donc ce qui cause des dettes colossales, des dettes publiques. Et puis, les crises qu'on engendre sont planétaires. Alors, est-ce qu'on peut souhaiter, en fin de compte, qu'un pays comme l'Égypte devienne comme nous, actuellement ? Peut-être qu'on a besoin d'évoluer aussi, pour souhaiter qu'eux évoluent dans le meilleur... dans les meilleures conditions. Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme modèle précisément ? Puisque nous-mêmes, on a de la poussière devant notre porte.
Mais je crois que justement, cette expérience de passage par les frères musulmans est intéressante. C'est pas que je la défende, mais elle est intéressante parce qu'elle va pousser les sociétés à créer leurs propres problèmes, leurs propres modèles démocratiques. Donc ils doivent passer par cette expérience-là, justement, pour arriver à créer leur propre modèle démocratique. L'apprentissage se fait comme ça. Un enfant grandit comme ça, une société aussi.
C'était dans le même discours... Qu'est-ce que ça veut dire démocratie et comment ça peut fonctionner autrement que de mettre tous les 4 ans un papier dans une urne et après on n'a plus le pouvoir, on l'a donné. Et c'est justement mon impression que j'avais sur le printemps arabe. La plus importante qu'on veut les élites, les Américains, je ne sais pas qui, qu'ils font les élections pour... redonner le pouvoir qu'ils viennent d'acquérir pour qu'ils se dépassent de ça le plus vite possible. Mmh. Et une fois voté, on n'en parle plus. Hein, maison.
C'est fini, on est démocrate.
Oui. Et nous aussi, hein, pour nous, c'est pareil. Si on discute avec les indignés, c'est justement ce qu'ils refusent. Ils disent, on ne veut pas avoir quelqu'un qui parle dans notre nom. On veut parler dans notre nom, nous-mêmes. Et c'est justement cette recherche d'une démocratie autre que représentative ou que pure représentative qu'il faut mener ici et là-bas. Et j'aurais aimé, c'était mon illusion, que le peuple tunisien, par exemple, garde le pouvoir à eux et ils font autre chose que des élections représentatives qui leur privent du pouvoir qu'ils viennent d'accueillir.
Une autre réflexion ? Non, mais je pense que les sociétés sont amenées à faire leur propre expérience, c'est-à-dire que des sociétés où les gens n'ont quasiment jamais voté librement, c'est déjà pas mal pour eux d'aller voter et de croire qu'on tient compte de leur voix. Et puis, ils feront cette expérience-là, effectivement, que ça ne suffit pas. Et j'espère qu'ils arriveront à développer des expériences collectives. Et ils ont connu des expériences collectives. Ils ne sont pas prêts de les oublier. Je pense qu'ils vont les développer. Et notamment, par la force des conditions. Vous savez, si vous ne faites pas appel au collectif quand vous vivez dans des quartiers comme Matariya, Imbaba et compagnie, vous crevez de faim. Donc forcément, le collectif y vient. Forcément. Quoi d'autre ?
Moi, je voudrais rebondir sur tout à l'heure la question de pourquoi il y a une assise importante d'organisation, soit des partis libéraux, soit les frères musulmans, et qu'il n'y a pas d'autres idées ou d'autres modèles qui peuvent porter. Enfin, faut savoir. Enfin, tu l'expliques bien dans tes articles, et c'est quelque chose que certains et certaines d'entre nous on connaît, c'est que les frères musulmans, comme le fils avait fait en Algérie, c'est que en fait ils ont fait un travail à la base, voilà. Et que à un moment donné, ils ont occupé une place qui était plus du tout
qui était vide,
qui était pas occupée par les partis de gauche, qui était pas occupée par d'autres collectifs de gauche. Et du coup, comme on se retrouve en France, hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a une coupure entre même les idées qu'elles soient, même si on parle par exemple du NPA. Enfin, je suis désolée, l'assise du NPA, c'est classe moyenne. C'est pas classe populaire, faut être clair. Et je veux dire, à un moment donné, il y a une scission qui se fait, et voilà. Enfin, je veux dire, et les frères musulmans ou le fils en Algérie, eux, ils étaient là. Et ils sont là. Ils sont là où sont les couches populaires. En plus, ils font des formes de... Enfin, c'est malheureux à dire, mais du coup, ils surfent sur cette vague-là de prise en charge sociale, de prise en charge de la santé, de prise en charge de l'éducation. Alors, avec leurs biais, effectivement, religieux, qui peuvent nous désoler parce que ça va pas dans le sens de l'émancipation. Mais voilà, ils occupent la place. Et c'est vrai que ce soit par rapport aux pays de l'Est ou à ces pays-là, ils ont connu... Bah, le problème, c'est que la lutte des classes, qui pourrait être une idée justement qui porte, puisque effectivement là, c'est les classes populaires qui se battent et qui ont à se battre parce qu'elles ont tout à perdre. Et ben en fait, c'est plus porteur parce que ça a été dévoyé par des nassers, par des moubouméddiennes, enfin voilà, c'est pas une question culturelle, c'est une question d'expérience historique et d'assimilation, voilà, d'une expérience historique malheureuse. Alors du coup, ces idées-là sont dévoyées, sont mises de côté et ne sont plus porteuses d'analyse ou de combativité. C'est dommageable, en tout cas, mais c'est comme ça que je l'interprète. Alors que faire justement pour aller plus loin ? Enfin, c'est-à-dire sortir de ce truc. Des frères musulmans, du dévoiement qui s'est passé sur le marxisme, la lutte des classes, voilà. Là, quelque part, c'est peut-être la question, en fait.
Non, mais je pense que l'alternative viendra après. C'est que, effectivement, j'ai vu, par exemple, parmi tous ces jeunes populaires sur la place, certains avaient constitué des ligues de jeunesse populaire. Ils étaient prêts à se battre politiquement contre les frères musulmans. C'est pas parce que les frères musulmans occupent une grande place dans la société que toute la jeunesse populaire leur a acquise, pas du tout. Mais il y a une formation politique en gestation. Les gens sont en train de se former et je suis convaincue, je suis peut-être trop optimiste, je suis convaincue qu'en passant par cette expérience-là, effectivement, ils comprendront qu'ils doivent s'organiser en dehors. Tout simplement. Mais ça appartient à leur histoire. Moi, je suis pour la souveraineté des peuples et je considère que les peuples doivent avoir les dirigeants qu'ils se donnent.
Est-ce qu'il y a un rôle des sociétés Arabie Saoudite ou Émirats du point de vue apport d'argent dans ces moments un peu importants que sont ces révolutions, que ce soit avec les mouvements religieux, puisque quand même les Saoudiens sont assez religieux, et qu'ils ont des sous.
Alors, je vais, ça va vous paraître paradoxal, mais les frères musulmans sont anti-wahhabites, donc ils sont anti-saoudiens, et ils sont riches, comme Crésus en Égypte, ils ont besoin de l'argent de personne. Donc c'est vraiment, ce sont des hommes d'affaires, mais redoutables, hein. Vraiment. Ils sont très bien installés, ils financent leurs propres activités, ils financent leurs activités caritatives de façon entièrement autonome, par leurs fonds privés, vraiment par leurs fonds privés. Alors les salafistes, c'est encore un autre courant. Dans les salafistes, il y a les pro-saoudiens et les anti-saoudiens. C'est encore une bataille entre eux, entre chers. Et on a assisté à ça en Égypte, où effectivement, il y a un des leaders salafistes qui fait une déclaration de la mosquée qui est passée à la télé, qui dit au lendemain, justement, du référendum, ceux qui ne sont pas contents qu'ils aillent en Amérique. Et le lendemain, il y a une manifestation de salafistes devant la mosquée, quoi. Donc tout est comme ça. où on le traite, les salafistes le traitent d'intolérant, etc. Donc, et en même temps, c'est vrai que c'est très intéressant comme expérience, quoi, parce que là, on est obligé de recadrer un petit peu les repères, de les déplacer, parce qu'on est tout le temps bousculé. Donc c'est pour ça qu'en même temps, même si le bilan d'aujourd'hui, effectivement, il est triste, c'est vrai, mais l'histoire de la société égyptienne va continuer à se faire et je suis persuadée que y a des ressorts, il y a de l'énergie dans cette société. Hein. D'abord, il y a une jeunesse énorme, mais que si nous ne voulons pas qu'en Égypte, il se passe en termes de répression ce qui s'est passé en Algérie pendant 10 ans, effectivement, je pense que nous avons intérêt à nous mobiliser pour défendre les détenus politiques et demander la libération des gens d'ici. Et je le dis haut et fort parce que l'Égypte étant un pays de tourisme, ils sont très pointilleux sur l'image de marque qu'ils ont à l'étranger, plus que d'autres pays. Vraiment très pointilleux. Donc si on enferme les gens et qu'il y a de silence en Occident, ils vont continuer à enfermer les gens, évidemment. Mais si effectivement il y a des campagnes et il y a un tollé autour des détenus politiques, autour de Wael Ali et autour d'autres, effectivement là ils font marche arrière. Et quand je parle de l'expérience algérienne, c'est la question des disparitions. Je suis très sensible à ça, parce que je sais que dans des moments où les régimes ont peur de leur population, c'est la première arme qu'ils utilisent, comme en Amérique latine dans les années 70. Malheureusement, les recettes fonctionnent, quoi. Pour terroriser une population, il n'y a pas mieux, effectivement, que d'enlever les gens. Ça, c'est clair. Et en Égypte, encore une fois, vu l'ampleur de la population, c'est très facile de faire disparaître les gens. Vous pouvez disparaître dans un quartier sans que le voisin d'après s'en rende compte, quoi. C'est très, très facile, quoi. C'est une société très atomisée, au final. Hein. Elle a été vraiment très individualisée. En dehors de ces moments où les gens se sont retrouvés soudain sur la place autour de trucs communs, et d'où l'euphorie générale. Ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas retrouvés comme ça ensemble. C'est vraiment très, très individualisé. C'est le premier truc qui... Ça m'a choqué, moi, de voir à quel point c'était devenu très individualiste. Pour des raisons de survie. Hein. Des raisons de survie et de trouver sa place dans le système, et etc., etc. Ça, c'est clair. Oui.
J'ai une question pour savoir, comme l'Égypte a des frontières communes avec Israël, comment Israël voit les choses et aussi donc les États-Unis, puisqu'on sait bien quand même qu'Israël et les États-Unis sont liés. Et qu'est-ce qu'ils vont accepter qu'il se passe en Égypte sans intervenir ?
Ben ce qu'ils acceptent, c'est effectivement une assemblée nationale. Mais ça, c'est le plan américain, hein, tenu par les frères musulmans, parce que ça permet de garder une société conservatrice. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Les Américains savent très bien gérer. Ça permet d'avoir effectivement des partis religieux. Israël, c'est très bien géré, ça, puisqu'en Israël, il y a des partis religieux. Donc, il n'y a pas de souci. C'est une société qui va ressembler quelque part à la société israélienne. Et on ne peut pas dire que la société israélienne soit très démocratique. Sauf que les Palestiniens en Égypte, eh ben c'est les pauvres. La différence, ça va être là. C'est tout. Donc, mais c'est pas... j'en parle, je suis triste, hein, mais ce n'est pas un déterminisme. Je pense qu'il y a des moments de l'histoire où, effectivement, il y a des reflux. Hein, donc c'est comme des vagues, hein, de la mer. On a assisté à la première déferlante, et je crois qu'il y en aura d'autres. Sauf que si on laisse ces sociétés isolées, effectivement, à chaque fois, on rentre dans l'engrenage émeute-répression. Donc je pense qu'on a effectivement, nous ici, en Occident, en France, on a une grande responsabilité, d'autant que j'étais au Caire quand le représentant européen était présent et a donné une conférence, et le représentant européen a réaffirmé l'attachement aux valeurs des droits de l'homme de l'Union européenne. Je pense qu'il a, il a axé volontairement son discours là-dessus, parce qu'il savait effectivement que de plus en plus de gens étaient enfermés. Ça, c'est clair. Donc je le dis parce qu'en même temps, l'Égypte est un pays qui vit avec l'argent qui lui vient en partie aussi de l'Europe. Ça, c'est clair, hein, au niveau des projets de développement et de tout ce qui se développe en matière de relations économiques maintenant avec l'UE. Puisque l'Égypte a demandé à être un partenaire privilégié, au même titre que l'Algérie, que le Maroc, etc. Donc je pense qu'il y a des moyens, effectivement, de pression pour que la répression, effectivement, pour juguler la répression. Et on a des moyens de pression, nous, d'ici, mais à condition de nous mobiliser autour de campagnes, effectivement, très ciblées, sur des cas, sur Wael Laboulé, les détenus politiques présents là-bas, les 12 000 par exemple dans les prisons. Donc pour ceux que ça intéresse de se mobiliser sur ces questions-là, ce texte est présent sur le site Tlaxcala dans plusieurs langues, donc une campagne est menée. Il y a indiqué une adresse e-mail et tous les contacts nécessaires donc, pour cette campagne.
À ce sujet, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire sur la liste de diffusion des jeudis en question. Ça fait partie des documents que l'on transmet. Alors sûrement que ça sera aussi sur Mondes et Multitudes. Mais donc vous pouvez toujours vous inscrire sur cette liste-là. Ça permet de faire circuler de l'information sur les thèmes des anciens jeudis en question, et donc en particulier sur le site de Tlaxcala.
Tlaxcala, comme la ville du Mexique. Ouais. Alors c'est le site des traducteurs internationaux pour la diversité linguistique. Donc pour ceux qui écrivent des choses intéressantes, envoyez-les à ce site parce que systématiquement, vous serez traduit dans plein de langues, ce qui donne tout de suite une dimension mondiale à vos écrits. C'est extraordinaire. Et donc là, nous appelons les gens à signer une pétition dans un premier temps. Et nous attendons de réunir des milliers de signatures, sinon des millions, pour pouvoir la déposer au SCAF, au Conseil suprême des forces armées. Sachant que pour le moment, dans le palmarès des premiers signataires, c'est les Brésiliens qui tiennent le peloton de tête.
Et la part de la Turquie dans ces révolutions, c'est quand même un pays laïque qui est gouverné par des islamistes. Bon, quelle branche d'islamistes, mais bon.
Les frères musulmans aussi.
Ah oui. Et donc, quelle est la part ils ont fait récemment, le président Erdogan a fait une balade sur le bassin méditerranéen. Qu'est-ce qu'il en ressort? Parce que bon, ça fait 15 jours, 3 semaines que ça a eu lieu. Qu'est-ce qu'il en ressort?
Ce qu'il en ressort, je pense que c'est pas le hasard qu'il ait fait cette tournée. C'est pour bien montrer aux Occidentaux qu'après tout, l'Égypte pouvait devenir, ou d'autres pays du pays méditerranéen, pouvaient devenir l'équivalent de la Turquie, tout simplement. Et donc que c'était pas effectivement un modèle dont il fallait avoir peur, prendre sa distance, etc. Que c'était très acceptable. Et je pense que c'est l'une des principales raisons de la visite d'Erdogan partout. D'une façon concomitante, les frères musulmans sont allés aux États-Unis voir leurs équivalents, hein, les WASP américains, effectivement, pour faire campagne pour leur image de marque. Hein. Donc ça, c'est une façon de signaler aux sociétés, ben, vous voyez, la Turquie, c'est un beau modèle, pourquoi pas nous, quoi, tout simplement.
Y a-t-il d'autres questions? D'autres informations à apporter?
Là-bas, deux.
Oui, je ne sais pas si ça a été répondu à la première question. Tu as dit que tu avais posé deux questions.
c'était ce qu'on avait pensé du film et ce qu'on en avait ressenti, nous, vu d'ici. Alors moi, je n'ai pas vu le film parce qu'on est arrivé trop tard. Et pour ceux qu'on en a vu d'ici, ça nous a été présenté sous le biais de l'information française, de ce que veulent bien nous laisser passer les médias français par rapport à comment se situe la France géopolitiquement par rapport au monde arabe et par rapport à tout ce côté très compliqué qu'on a les Occidentaux par rapport à l'Afrique, avec l'histoire des colonies, par rapport au fait que la France, avec l'Angleterre, avec les États-Unis, enfin tout ça, sont souvent à faire et défaire les chefs d'État. Bon, pour le monde arabe, c'est peut-être un petit peu différent, je ne sais pas. Donc nous, l'angle qu'on en a eu par les médias, c'est là. Et là, actuellement, la grille de lecture, enfin, ce que je voulais dire, le Front National, par exemple, ou des gens du Front National, quand on les a entendus parler par rapport aux événements du monde arabe, moi j'ai eu entendu des trucs comme « Ah ben c'est bien, ils sont en train de se casser la gueule entre eux, quoi. » Voilà ce qu'on peut entendre aussi en France. Pour les gens qui sont ici, je ne sais pas, enfin, je pense qu'il y a un certain nombre, on se le dit des fois entre nous, on est un peu convaincus, c'est des gens qui se posent des questions, qui ont l'âme révolutionnaire peut-être, la France est un pays révolutionnaire, etc. Et nous on a un problème actuellement par rapport à notre république à nous, notre démocratie, notre soi-disant démocratie, etc. Donc là, en ce moment, on est en train de nous faire peur en disant, voyez, c'était formidable, les pays arabes, il y avait des horribles dictateurs, voilà, à tel point que d'ailleurs notre Kadhafi, il a fait notre Sarkozy, enfin pas le mien, mais notre président, enfin voilà, le président actuel de la France, Sarkozy, est parti en Libye, tout ça, voilà, il y a tous ces trucs-là derrière, on ne sait pas trop bien, et même nous en France, on ne sait pas trop bien, parce que même les révolutionnaires, ça ne bouge pas en France, et pourtant il y aurait beaucoup de choses à changer, parce que l'idée de la révolution, c'est par rapport à la justice sociale, justement, par rapport à meilleur partage des richesses, etc. Et en France, on en est très loin, parce qu'on a des élections, mais on ne voit pas trop ce que ça va changer, voilà, malheureusement. Enfin, j'en ai bien peur, une fois de plus, parce qu'au-dessus de nous, il y a la finance, il y a aussi toute cette dimension-là, qui gère le monde, toute la règle d'or, enfin, toutes ces histoires-là là, de dette, de tout ça nous mène tous par le bout du nez, au-delà des religiosités, au-delà de tout ça, il y a le pouvoir de l'argent qui fait qu'aujourd'hui, il y a ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, ceux qui font, qui défendent les dictatures, etc. Et aujourd'hui, on est un peu tous dans cette impasse-là, et de manque d'imagination, en tout cas, j'ai l'impression, pour nous, ici en France, qui avons fait des révolutions, etc., mais il y a longtemps déjà, maintenant, de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ça. Et comment on peut tous, alors je ne sais pas si c'est présent ça aussi, dans la révolution arabe, au-delà de qui va gérer les pays, d'essayer de trouver comment combattre voilà, ces forces de l'argent et cette, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais cette pensée qu'on entend aujourd'hui, voilà, il n'y a que la finance, il n'y a que la dette, on se sert aujourd'hui de ça, hein, la règle d'or pour les Grecs, pour l'Europe et tout ça, pour maintenir les peuples en bas, quoi. On en est toujours là. On a la démocratie, entre guillemets, on a des élections, on n'a pas des gars qui sont là depuis 25 ou 30 ans, mais voilà, le résultat des courses, à la sortie, il est qu'il y a des gens qui ont de l'argent, des gens qui en ont moins, des gens qui profitent, des gens qui sont malhonnêtes, il y a tout ça, quoi. Et ça, on a du mal, aujourd'hui, à savoir comment on va pouvoir arriver à ça, sinon, bon, peut-être quelques, vous l'avez dit, par des initiatives locales. Je ne sais pas, j'étais un peu long.
Non, mais je pense que c'est la même préoccupation, finalement, à des échelles différentes dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a une très forte demande dans les pays du monde arabe ou ailleurs où ce type d'expérience se développe, parce qu'effectivement, ils sortent à peine de dictature. Donc, effectivement, la première vague est très, très forte, avec une très, très forte demande. Mais je pense qu'ici, comme là-bas, la préoccupation, c'est d'arriver à redonner du sens au mot démocratie et aux valeurs que ça implique. Or, le sens, on le connaît très bien, puisqu'il y a eu l'histoire de France, puisque cette idée n'est pas née de nulle part, puisqu'elle a évolué, et qu'en fait, si on y réfléchit bien, par rapport au discours dominant qui nous est donné concernant la finance et la toute-puissance de l'argent, c'est pas une fatalité, et qu'au bout d'un moment, effectivement, les gens qui ont moins d'argent que d'autres s'organisent différemment pour vivre mieux. Tout simplement, c'est-à-dire qu'après, ça devient vraiment une question de bon sens. C'est ce que je disais par rapport aux quartiers populaires, que ce soit du Caire ou d'ailleurs, il y a des expériences qui vont être amenées à se développer. Là, quand je vois franchement un collectif de 60 familles, et je ne vous dis pas dans quel dénuement elles vivent, s'organiser pour défendre leur cause, je suis complètement admirative, évidemment. Quand je vois dans d'autres endroits d'Algérie des collectifs, et j'ai vu naître des collectifs de jeunes dans des quartiers, notamment le quartier populaire de Climat de France, j'avais filmé à l'époque, effectivement, je suis admirative. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une capacité de l'imaginaire qui fait que la nature humaine reprend le dessus, tout simplement. Et la nature humaine, qu'est-ce qu'elle dit ? À partir du moment où, effectivement, vous avez un discours dominant qui essaye de rendre tout le monde pessimiste et fataliste en disant que tout, finalement, est lié à la finance qui domine le monde, etc., etc. Certes, c'est une réalité, mais on peut faire à côté. On peut faire à côté. Autrement. Autrement. C'est-à-dire une révolution. La révolution, tout dépend dans quel sens on l'entend. Si on l'entend dans le sens où on fait la révolution et on prend le pouvoir, effectivement, on recommence. C'est-à-dire qu'on est intégré au système, finalement, puisqu'on est dans des logiques où... je vais prendre, par exemple, l'exemple des banlieues françaises, de l'enflammement des banlieues françaises en 2005. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que soudain, il y a eu des incidents dans la banlieue française et que ça a permis effectivement à Sarko et compagnie de mettre en place un plan banlieue où on a d'un coup la police et l'armée qui sont réunis dans des brigades spéciales pour mater. Hein, donc, quand je dis l'armée, c'est la gendarmerie, mais c'est tout comme, avec des entraînements pour effectivement mater quoi ? Des révoltes populaires. Hein. Et des révoltes populaires qui tournent autour de quoi ? De plus de justice sociale. Donc ici, on a des luttes qu'on n'appuie pas. Et la réalité, c'est ça. On a des luttes qu'on n'appuie pas. Si, à partir de ce constat-là, on se dit qu'effectivement, il faut développer ou arriver à développer d'autres solidarités qui font effectivement que ces jeunes ne se sentent pas relégués. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. Je suis née en 1960, c'est-à-dire pendant la guerre d'Algérie, en France, à Nanterre, à côté du bidonville de Nanterre, qui était un fief FLN. J'ai grandi. Je suis allée à l'école maternelle à l'âge de 5 ans. On faisait la chasse au bico dans la cour de récréation. C'était très violent. Mais moi, je n'étais pas le bico, puisque je n'habitais pas le bidonville. Donc, je me trouvais entre deux. Je me trouvais à la fois entre les petits Français et entre les gens qui venaient du bidonville et que je voyais comme moi. Donc, je ne comprenais pas. Pourquoi on les poursuivait, puisque moi, on ne me poursuivait pas. Ça a été mon positionnement premier, donc de lien. Je suis restée un lien, en fait. Ça a été, ben oui, c'est naturel. Donc, arrive 68, j'habitais pas loin de la fac de Nanterre. Donc, je vois soudain quoi ? Des maoïstes débarquer dans la cité. Mon premier contact, en dehors de la cité, avec la société française, ça a été les maoïstes de la fac de Nanterre. Ils nous emmenaient dans ce qu'on appelait une maison peinte. Il y avait une super maison peinte pas loin de chez nous. Et on faisait des travaux manuels. C'était des gestes humains. C'est ça qui m'a fait changer mon regard sur la société française. Parce que d'un côté, mes parents me disaient « Attention, la France, la guerre d'Algérie, etc. » Il y avait tout ce climat-là. D'autre côté, il y avait le racisme. Et soudain, il y avait cette lumière qui est venue avec les maoïstes. Je ne savais pas, moi, j'étais petite, ils étaient maoïstes. Mais ce que je savais, c'est qu'ils m'emmenaient faire des travaux manuels. Ben voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et ça, ça change les perspectives et ça change les regards de tout le monde. C'est-à-dire que ces gamins qui sont relégués dans les cités, ou ces mômes d'Imeba, ou ces mômes de l'autre bout du monde, ça peut être au Mexique, ça peut être n'importe où. À partir du moment où des solidarités se mettent en place et des liens se mettent en place, bien sûr que ça change les perspectives. Mais pour moi, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'en passer par le déterminisme du pouvoir de l'argent, etc. La capacité humaine, elle est là, et puis elle est inépuisable. Elle est là. Et ça, je le vois tout de suite dans les rapports que j'ai. Quand je vais là-bas, bon, vous avez compris, je suis journaliste, mais je suis une journaliste engagée. Donc, quand je vais là-bas, effectivement, les gens le perçoivent. Ils savent que ils sentent tout de suite que je ne suis pas une journaliste comme les autres. Je ne me contente pas de prendre leur témoignage et de repartir. Je suis là, ils me font part d'un certain nombre de choses, je les accompagne, je suis présente, etc. Mais tout de suite, je vois, les rapports sont différents, les regards se changent. Pas parce qu'il y a la proximité. Moi, on me perçoit comme une Française. Hein. Pour eux, j'ai le profil d'une Française. Hein. En Égypte, on m'appelle la Française. Hein. C'est clair et net, hein, dans le comportement, dans tout. Culturellement, je suis française pour eux. Mais en même temps, ils perçoivent effectivement que dans ma façon de fonctionner, avec eux, ben effectivement, ils savent que là, il y a quelque chose de solide et les regards se transforment complètement. Et ça, c'est vachement important pour eux parce que ça les renforce. Donc, c'est ce que j'appelle le réarmement moral. Ça les renforce dans leur lutte. Et c'est vrai que c'est un accompagnement. Je pense qu'on a cette responsabilité de le faire. Nous, effectivement, qui, par rapport à eux, sommes peut-être moins dépourvus, finalement. On a des outils entre les mains, mais malheureusement, je crois qu'on nous a handicapés, qu'on ne sait pas les utiliser, c'est tout. Merci. Merci alors, de votre patience.
Et merci pour tout ce que nous avons appris ce soir, cette perception qui change sûrement nos points de vue sur ce qui se passe outre-Méditerranée.